cours sur la domestication des volailles. Ce cours porte sur l'histoire et les mécanismes de la domestication des volailles, en prenant la poule comme exemple principal. Il s'adresse aux étudiants en zootechnie, biologie animale ou sciences agricoles. Chapitre 1er. La domestication des volailles. Chaque espèce aviaire possède sa propre histoire de domestication. La poule et le canard ont été domestiqués en Asie, la pintade en Afrique et la dinde en Amérique. Parmi toutes ces espèces, la poule est celle dont l'histoire est la mieux documentée. C'est donc elle que nous allons choisir comme fil conducteur de ce chapitre. Première partie. Quand la domestication a-t-elle eu lieu? Alors que l'évolution de la poule de jungle s'étend sur des millions d'années, la domestication de cette espèce a débuté en Asie du Sud-Est il y a plusieurs milliers d'années, plus précisément entre 7500 et 4500 ans avant le temps présent, ce repère étant fixé à l'année 1950. Deuxième partie. Quelle espèce est à l'origine de nos poulets? La poule de jungle, connue sous le nom scientifique Galu-Galu, vit encore aujourd'hui dans les forêts et en lisière de forêt sur un vaste territoire allant de l'Inde jusqu'à l'Indonésie. Cette espèce constitue l'ancêtre majeur de nos poulets actuels. Il existe cependant trois autres espèces du genre Galu qui ont également joué un rôle. Il s'agit d'abord du Galu sonracii, ou coq de Sonra, présent au sud de l'Inde. Ensuite du Galu lafayetti, ou coq de Ceylan, que l'on trouve uniquement sur l'île de Ceylan. Et enfin du Galu varius, ou coq de Java, présent en Indonésie. Le coq de Sonra a probablement contribué lui aussi à la domestication du poulet, car c'est à lui que l'on doit le caractère peau jaune, que l'on observe chez certaines races locales mais également chez les lignées de poules pondeuses commerciales. Troisième partie. Où la domestication a-t-elle eu lieu? Il n'existe pas de consensus scientifique sur l'existence d'un seul ou de plusieurs foyers de domestication. Il est probable qu'il y ait eu un premier foyer dans la vallée de l'Indus et un second foyer à la lisière entre la Chine et le Vietnam. Certains chercheurs revendiquent également une domestication plus au nord, en Chine. Les restes d'ossements de poulets sont rares dans les sites archéologiques, et leur datation présente souvent des difficultés, notamment en raison du déplacement possible des restes entre les couches géologiques et du très mauvais état de conservation de ces fragments. Quatrième partie. Pourquoi a-t-on domestiqué la poule? La poule de jungle est un animal de petite taille, qui ne grandit pas rapidement et qui pond peu d'œufs. La motivation des premiers éleveurs de poules semble donc avoir été d'ordre culturel plutôt qu'alimentaire. La distraction par le combat de coqs, tradition encore très présente en Asie aujourd'hui, est l'une des raisons principales. Les poules pouvaient aussi être utilisées pour des sacrifices ou offertes en cadeau, pratique que l'on observe encore en Afrique et en Asie. Il faudra attendre l'époque romaine pour voir apparaître les premières descriptions d'un élevage de poules à vocation alimentaire. Cinquième partie. Comment la domestication s'est-elle opérée? Alors que la poule sauvage est difficile à apprivoiser, la poule domestique, elle, reste spontanément dans le voisinage de l'homme. Toutefois, les modifications physiologiques liées à la domestication sont encore mal connues. Elles concernent le comportement, avec notamment une moindre peur de l'homme, ainsi que la sensibilité à la photopériode, c'est-à-dire la réaction de l'animal à la durée quotidienne d'exposition à la lumière. Les mécanismes biologiques impliqués font encore l'objet de recherches actives. Chapitre 2. De la domestication à la sélection industrielle. Première partie. Les premières migrations. La poule domestique a accompagné l'être humain. Dans tous ses déplacements à travers le monde, elle a suivi deux grandes voies de dissémination. La première est la voie maritime, soit vers l'est en direction de l'Océanie, soit vers l'ouest en direction de l'Afrique puis de la Méditerranée. La seconde est la voie terrestre vers l'ouest, qui a finalement conduit la poule jusqu'en Europe centrale, puis en Amérique. La présence de poules en Amérique du Sud avant l'arrivée des Européens fait encore l'objet de débats, mais la poule chilienne araucana, qui pond des œufs bleus, pourrait avoir une origine asiatique. Cette phase de dispersion a duré quelques milliers d'années, pendant lesquelles les populations domestiquées ont évolué au contact de l'homme et ont accumulé des mutations dont certaines modifient des caractères visibles, comme le plumage ou la forme de la crête. Cette diversité dite visible était contre-sélectionnée dans le milieu sauvage, car elle pouvait par exemple réduire le camouflage des poules face aux prédateurs. Deuxième partie. La standardisation des races. Le choix des animaux destinés à la reproduction a conduit les éleveurs à identifier et à nommer des races. Ces races sont reconnues à la fois par leur localisation géographique d'origine et par des caractéristiques visibles, qui sont rassemblées dans ce que l'on appelle un standard de race. Ce standard décrit des éléments tels que le format général de l'animal, la couleur du plumage, la couleur de la peau, la forme de la crête ou encore la distribution des plumes sur le corps. Troisième partie. la diversité morphologique des races de poules. Les races dites standardisées sont parfois issues d'un petit nombre d'animaux fondateurs. Elles sont aujourd'hui nombreuses en Asie et en Europe, mais pratiquement absentes en Afrique, où les poulets villageois présentent encore une grande variabilité de couleurs. En Europe, on distingue habituellement deux grands groupes. D'un côté, les races dites méditerranéennes, de format léger, dont l'exemple type est la gauloise dorée, qui présente la même couleur de plumage que la poule de jungle. De l'autre côté, les races dites continentales, souvent plus lourdes, comme la polonaise huppée. Certaines races présentent des dessins de plumage caractéristiques, d'autres ont des formes de crête originales, ou encore une répartition particulière des plumes, par exemple une huppe sur la tête, un cou nu, ou des plumes sur les pattes. Certaines races sont de format massif, tandis que d'autres sont légères et hautes sur pattes, comme les races dites combattantes. L'évolution des races standardisées est attestée par des documents datant du Moyen Âge et s'est déroulée sur plusieurs siècles. Au XVIIIe siècle, un événement majeur se produit avec l'importation en Europe de races asiatiques, choisies pour leur format et leur qualité de viande. Ces races ont été croisées avec celles qui existaient déjà en Europe depuis les premières migrations. Les races asiatiques ont apporté le format qui caractérise les ancêtres de nos poulets de chair actuels, ainsi que la couleur de coquille brune des pondeuses commerciales. En effet, les races présentes avant cette importation d'Asie, comme les races méditerranéennes, produisaient des œufs à coquille de couleur claire. Quatrième partie. La sélection. À partir du XIXe siècle, les poulets et les poules ont commencé à être élevés de façon organisée pour l'alimentation humaine. Cette évolution s'est considérablement accélérée au XXe siècle avec l'adoption de méthodes de sélection quantitative, c'est-à-dire des méthodes mathématiques permettant d'améliorer les performances des animaux de génération en génération. Ces méthodes ont conduit à l'apparition de lignées spécialisées soit pour la ponte, soit pour la production de viande, et capables d'atteindre des performances totalement inconnues chez l'ancêtre sauvage, dans des conditions d'élevage contrôlées. Pour illustrer cela, une poule pondeuse commerciale produit aujourd'hui environ 300 œufs de couleur homogène par an, contre seulement une centaine pour une poule de jungle. De même, un poulet de chair commercial atteint 2 kg en 6 semaines, alors qu'un poulet de jungle adulte ne pèse qu'un kilogramme après 20 semaines. Ce phénomène a été particulièrement marqué en Amérique du Nord et s'est déroulé en quelques dizaines d'années seulement. Pendant cette période, un petit nombre de races a donné naissance à toutes les lignées commerciales actuelles. On peut citer notamment la Corniche et la Plymouth Rock pour les poulets de chair, la Rhode Island Red et la New Hampshire pour les pondeuses à œufs bruns, et la Leghorn Blanche pour les pondeuses à œufs blancs. Toutefois, cette évolution spectaculaire des performances de ponte et de croissance n'est pas sans conséquence sur le bien-être et la fertilité de ces lignées, un point sur lequel nous reviendrons. Chapitre 3. La diversité génétique actuelle de la poule domestique. La diversité génétique de la poule domestique englobe plusieurs ensembles de populations. On y trouve d'abord les populations villageoises présentes en Afrique, puis les races standardisées maintenues par des éleveurs amateurs, les lignées commerciales utilisées dans l'industrie avicole, mais aussi des lignées expérimentales et des lignées consanguines, c'est-à-dire des lignées issues de croisements entre individus apparentés. Ces dernières constituent des modèles précieux pour la recherche et pour l'analyse du déterminisme génétique des caractères, c'est-à-dire la façon dont les gènes influencent les traits observables. Alors que l'aspect extérieur des lignées commerciales a été uniformisé pour accompagner une production de masse, les races dites anciennes ou races locales présentent encore une grande diversité morphologique. Le déterminisme génétique de cette diversité commence à être élucidé. Il est aujourd'hui possible de relier la variation du génome, c'est-à-dire l'ensemble du matériel génétique de l'animal, avec la variation du phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques observables. Cela vaut par exemple pour la forme de la crête, qu'elle soit en pois, en rose ou en corne, ou encore pour la distribution du plumage, comme un cou nu, une huppe sur la tête ou des pattes emplumées. En ce qui concerne la diversité à l'échelle du génome, le développement des marqueurs moléculaires, c'est-à-dire des outils permettant d'analyser et de comparer les séquences d'acides désoxyribonucléiques, ou acides désoxyribonucléiques pour aller vite, a mis en évidence une grande hétérogénéité parmi les races locales. Certaines de ces races sont très consanguines, mais d'autres présentent une variabilité aussi grande que celle de la poule de jungle sauvage. La situation des lignées commerciales révèle quant à elle un classement très répétable. La diversité moléculaire est élevée chez les poulets de chair, moyenne chez les pondeuses à œufs bruns, et faible chez les pondeuses à œufs blancs. Ce gradient reflète probablement le nombre de races choisies à l'origine, la taille de la population utilisée lors de la fondation de ces lignées, et la méthode de sélection appliquée. Conclusion. Pour conclure, on peut retenir deux grandes dynamiques qui ont façonné la poule domestique telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'un côté, la sélection intensive de ces dernières décennies a produit des lignées commerciales standardisées, parfaitement adaptées aux besoins de production de nos sociétés modernes. De l'autre, le processus plus long de la domestication, s'étendant sur des millénaires, a engendré une diversité foisonnante de races locales à travers le monde. Cette richesse, combinée à la diversité encore présente chez l'espèce sauvage dans son territoire d'origine, constitue un immense réservoir génétique. Ce réservoir représente un atout considérable pour adapter les populations. Aviaires aux enjeux futurs, qu'il s'agisse des changements climatiques, des nouvelles exigences sanitaires ou des évolutions des pratiques d'élevage.